tous les podcasts des 3-8, radiogrenouille.com.
La friche dans le flux, la friche dans le flux.
C'est ça.
Donc, le flux dans le flux, ça s'appelle la friche dans le flux.
Soirée spéciale en direct sur Radio Grenouille. Entre live et entretien avec les artistes, la nocturne friche sur Radio Grenouille.
Rudy Ricciotti.
Rudy Ricciotti et Pascal Urbain.
C'est sur le 88.8, nocturne friche.
Friche dans le flux.
Bonsoir et bienvenue pour l'ouverture de cette nocturne friche. C'est le nouveau rendez-vous de la friche Belle de Mai à Marseille. Donc tous les derniers vendredi du mois, la friche s'ouvre le soir, l'occasion de découvrir les expositions de manière gratuite, les expositions de la Tour Panorama, mais aussi d'écouter de la musique, une programmation proposée par le musicien artiste Eric M. Je dis bonsoir à nos auditeurs car nous sommes en direct sur les ondes de Radio Grenouille et nous sommes ici au restaurant des Grandes Tables et je dis bonsoir au public présent, nombreux, et merci à vous d'être venus. Je disais donc l'occasion de découvrir les expositions et notamment en ce moment, du 14 février au 18 mai, on peut voir l'exposition Ricciotti Architect, une très belle exposition accompagnée aussi d'un très beau catalogue. Une exposition donc qui met en valeur une série d'expérimentations sur le béton, la matière de prédilection de Rudy Ricciotti. Et Rudy Ricciotti est avec nous ce soir et c'est une vraie joie. Bonsoir Rudy Ricciotti. Architecte du Stadium de Vitrolles, du Centre chorégraphique national d'Aix, le Pavillon Noir, du Pont du Diable à Gignac, du Philharmonique de Berlin, du Département des Arts de l'Islam au Louvre et du MUSEM, Musée des Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. Vous avez été également Grand Prix National de l'Architecture en 2006. Dans un ouvrage qui a pour titre « L'architecture est un sport de combat », c'était publié aux éditions textuelles, on peut lire une petite présentation par vous-même, Ricciotti par lui-même, disons. Alors voilà, par exemple, on peut lire ceci: « J'aime créer des tensions, foutre la merde, déclencher des débats. J'aime simplement des tensions, par plaisir, comme on mettrait un peu de piment dans un plat. Ça accroche la gueule, mais c'est bon. » Alors j'espère que la rencontre de ce soir sera pleine de piment. Vous êtes également amateur de rock, il me semble, entre autres les Rolling Stones, je crois. Et particulièrement donc des Rolling Stones. On en écoute un extrait. Le rock, justement, le rock ce soir, une programmation rock pour cette nocturne friche avec Keith Richards Overdose et Date with Elvis, c'est ce soir, après notre rencontre. Vous êtes également un amateur de la poésie, je crois que vous connaissez beaucoup de poètes, dont notamment un compagnonnage avec Julien Blaine qui a écrit dans le catalogue Ricciotti Architect. Vous êtes également collectionneur d'art et vous avez un respect pour le savoir-faire ancestral des artisans. Pour cette rencontre, vous avez souhaité dialoguer avec Pascal Urbain. Pascal Urbain, bonsoir. Pascal Urbain, vous pouvez prendre un micro hein, les uns et les autres. Hein. Pascal Urbain, vous êtes architecte, vous enseignez aussi l'architecture et vous êtes auteur d'ouvrages dont Architecture historique à Marseille en 1993, De la désillusion, six cours d'architecture et puis Les sujets de l'architecture, ça c'est publié en 2005. Je crois que vous avez en commun une passion pour la corrida, on en parlera. Vous partagez aussi un même combat contre les nouveaux éco-quartiers, les fameux HQE, on en parlera aussi, qui répondent aux normes de haute qualité environnementale. Alors pour peut-être débuter cette conversation, je disais évidemment le MUSEM salué par tous, qui fait l'unanimité, et en même temps, dans les années 90, l'expérience d'une construction à Vitrolles, le stadium aujourd'hui abandonné, laissé à l'état d'abandon. C'est un bâtiment qui a été construit donc dans les années 90, qui devait être une salle de rock, justement, le rock, et aussi un endroit pour, je crois, des terrains de handball, pour le club de handball de Vitrolles. Et puis il a fonctionné 5 ans. Et puis aujourd'hui, il est à l'abandon. Il a été fermé fin des années 90. Il est à l'abandon. Qu'est-ce que cela vous fait, ce stadium, aujourd'hui, à l'abandon, à Vitrolles, Rudy Ricciotti?
D'abord dire que tout à l'heure, vous m'avez dit je trouve ça très beau à l'abandon. Moi, je n'ai absolument pas votre vision cynique.
Parce que je vous disais que c'était fait qu'il soit à l'abandon fait que je trouve que c'est l'architecture la plus belle finalement réalisée.
Mais depuis vous l'avez effacé parce que vous sentez combien c'était imprudent de dire ça. Je ne crois pas qu'il y ait à se réjouir de l'idée d'une ruine contemporaine. D'abord, si le stadium a été fermé, c'est pas le déficit de succès de cette salle qui était quand même une acoustique d'exception pour les scènes rock. C'est que ce fut une décision politique. Il ne faut pas le perdre de vue. Et donc, ils ont fermé la salle, c'est à eux de rouvrir. Ça peut toujours très vite refonctionner. C'est une salle de 5000 places, avec un peu de réparation, on peut repartir. Ce que je trouve extraordinaire, c'est que dans le cadre de l'année capitale européenne de la culture, on n'a jamais imaginé mettre un peu l'argent nécessaire pour un investissement durable, pour que cette salle de spectacle puisse se réactiver. C'est venu à l'idée de personne, je trouve ça extraordinaire, voilà.
Peut-être qu'on peut préciser où est-ce que ce bâtiment se situe, dans un sort de nomad's land, non site, non lieu, un peu perdu quand même, une ancienne décharge, je crois.
Oui, une ancienne décharge à ordures. Je me rappelle quand je faisais le chantier, c'était donc en 1990, il y avait des camions énormes qui passaient avec des roues de 2 mètres de hauteur, qui amenaient la bauxite, qui amenaient d'autres ordures, etc. Il y avait un matelas, il y avait un canapé éventré à l'entrée du site, et il y avait un travelo assis dessus, un short, qui attendait le client. Je gardais cette image de ce lieu, qui plus tard devient une vraie scène de rock. Vous savez, j'aurais beaucoup de choses à dire sur ce bâtiment.
Pour préparer cette rencontre, j'ai rencontré Pascal Urbain. Il me disait, après tout, peut-être que l'architecture, à certains aspects, ne s'adresse pas directement aux hommes. Peut-être qu'elle s'adresse à autre chose qu'aux hommes. Et quand je pense à ce stadium, laissé à l'abandon, dans ce non-site, peut-être que là, on a le témoignage d'une architecture qui ne s'adresse plus tout de suite aux hommes, mais qui s'adresse sans doute à des divinités ou à autre chose, en tout cas, que les hommes. Pascal Urbain.
Oui, sans être cynique, d'abord, il faut dire que c'est quand même la gloire de Rudy Ricciotti de faire partie de la collection des grands bâtiments d'architecture moderne qui se sont retrouvés ruinés. D'abord, la Villa Savoie, la Villa Noailles, à Hyères, de Malé Stevens. Donc la Villa Savoie de Le Corbusier. Il y a actuellement des bâtiments très délabrés de Gainsbourg, en Russie. Toutes les maisons du Bauhaus, et le Bauhaus lui-même, ont été ruinées. Je dirais, belle compagnie quand même.
Ouais, Black Béton et Mistral Rouge, voilà.
Quand est-ce que l'architecture s'adresse aux dieux ? C'est une façon de parler. L'architecture, elle est faite par les hommes et pour les hommes. Mais elle est tellement énorme. Et même à l'état de ruine qu'on restaurera, je ne doute pas qu'il y aura une fondation Rudy Ricciotti au stadium.
Non, mais là, tu démarres fort, là, Pascal, quand même. Parce que la dernière fois qu'on a fait un débat ensemble, on s'est mis toute la salle à dos, on s'est fait insulter, mais on a pris de bronca, c'était terrible. Ouais. Tu démarres un peu tôt, à mon avis, mais bon.
Oui, d'accord, tu as raison. Non, mais ce que je veux dire, c'est pas que l'architecture n'est pas faite pour les hommes, qu'elle ne sert pas les hommes, c'est qu'elle est tellement grande, elle est tellement plus durable que les hommes. Enfin, en tout cas, dans sa version profondément architecturale, c'est-à-dire pas dans ces machins boulonnés qui vont durer 10 ans, qu'évidemment elle nous dépasse et que c'est pas simple pour nous les hommes, je veux dire les hommes et les femmes, le genre humain, n'est-ce pas, pas que nous les architectes, c'est pas simple d'y être, c'est que d'être d'une ville, Marseille par exemple, qui existait il y a 2500 ans et dont on espère qu'elle existera dans 2500 ans, c'est pas simple. C'est pas simple d'être confronté à une bête, puisqu'on parlera de la corrida, qui pèse 1000, 2000, 3000 fois plus que moi. Et pourtant, oui, je m'entraîne hein, à avoir un poids architectural. Mais je veux dire, les tonnes de béton sont plus lourdes que le poids d'une personne qui y habite. C'est pas simple et les gens doivent inventer des manières de vivre dans l'architecture. Alors, voilà, c'est ça que je voulais dire en disant, a priori, l'architecture s'adresse aux dieux. Voilà,
parfois, c'est pas que le poids du béton qui rend les choses pas simples. J'ai pu lire l'architecture est un sport de combat. Vous témoignez de votre première expérience, construction d'une maison pour un boucher. Le boucher a essayé d'y vivre. Je crois qu'il a fini en dépression, non ?
Oh oui, c'est ça. Oui. Il a fait une dépression nerveuse. Sa femme l'a quitté. Un désastre. Un vrai désastre.
Ouais. Alors, bon, Pascal Urbain, vous me disiez...
J'avais fait un aquarium, en fait, à l'intérieur. J'avais absolument fourgué un aquarium. Je sais pas pourquoi. J'étais assez infantile, tu vois. Mais c'est mauvais. Très mauvais. Je sais même plus où aller, cette maison, tu vois. Elle est en Haute-Savoie. Je me dis, un jour, j'aimerais bien la retrouver, quand même. Tu vois, c'est...
Est-ce que tous les architectes ont un boucher ? Vous en avez eu un, Pascal Urbain ?
J'ai eu une bouchère. Non, mais effectivement, j'ai un profond regret pour une attente. Enfin, la justice m'a blanchi, hein, mais j'ai, pour une inattention de jeunesse, il y a quelqu'un qui n'est pas rentré dans sa maison. Pendant un an de procédure de contentieux avec l'entreprise. Et il est très probable qu'avec un peu plus d'expérience, j'aurais pu voir avant que ça allait mal se passer. Oui.
Comment vous l'expliquez, cette expérience ? C'était quoi ? C'était de vouloir prouver quelque chose à l'endroit de l'art ? Et uniquement l'art, du geste artistique ?
Écoutez, il ne faudrait pas qu'on s'ennuie dans ce débat. Ouais. J'ai fait venir Pascal Urbain, parce qu'on se déteste tous les deux, totalement, il faut que le public le sache, et que je crois que c'est la dernière version pataphysique existante, connue. Pascal Urbain est un pataphysicien, voilà. Et moi, je suis quelqu'un qui est totalement opposé à l'utopie, vous voyez ? Donc je pense à partir de ça aussi, avec un peu d'habileté, vous pouvez essayer de construire une bombe, parce que Pascal, ton homme, m'a demandé si on se promettait de ne pas se frapper sur scène. Mais moi, je ne sais pas combien de temps je vais tenir, tu vois. Parce que là, il commence à...
On ne fait que commencer, là.
Ouais. Ouais.
Ouais. Bon, l'utopie, on peut en parler. Hein.
Ouais. Non, mais l'utopie, c'est... Attends, l'utopie, c'est dégueulasse. C'est obscène, c'est pornographique, l'utopie. C'est quand même le seul cheminement qui permet de renoncer à un meilleur futur. C'est un repli, encore une fois, assez impudique sur le déficit de combat, sur la volonté de ne jamais transformer le réel. L'utopie, c'est un truc d'universitaire, c'est un truc de culture d'emprunt, c'est pas quelque chose qui renvoie à la culture d'expérience. Ça sent mauvais, l'utopie, quand même, non ? Ça sent pas bon. Ça sent pas bon, l'utopie. Ça sent le danger, le mauvais. Ça sent la manipulation. C'est un truc de prof d'archi, l'utopie. Quoi ? Non, mais c'est un truc de pédocrate, c'est-à-dire mi-chemin entre pédophile et autocrate.
Tu vois ? Non, mais ça fait quand même très longtemps que tu n'es pas rentré dans une école d'architecture. Il n'y a plus d'utopistes.
Il n'y a plus d'utopistes ?
Non.
Et l'utopie, ça ne permet pas. Je ne sais pas, par exemple, quand on parle de la justice, si on se contente uniquement de dire la justice est injuste... Et qu'on ne pose pas l'utopie de justice, alors on abandonne tout. Attends, il faut bien un peu d'utopie tout de même.
Il fallait pas me chercher sur ce sujet, parce que moi j'ai fait une garde à vue. Et donc...
Moi aussi j'ai fait une garde à vue.
Je sais.
Mais je veux dire, la moitié de la salle a fait une garde à vue.
Tout le monde a fait une garde à vue.
Enfin, non. Monsieur...
Non.
Ah, vous n'êtes pas éligible alors ? Non, moi, mon problème, c'est que ça a été effacé de mon casier judiciaire, donc je ne peux même pas me présenter aux élections municipales à Marseille. Ah ben, je... Sans condamnation,
Tu n'es pas élu.
Non, ce que je voulais dire, c'est...
Utopie.
Ouais, non, mais c'est que... Quand j'ai fait une garde à vue pour trouver la nuit, trouver le sommeil, à 3h du matin, je me masturba. Bon. Là, c'est un vrai cheminement sur un territoire totalement inaccessible. Tu vois, est-ce qu'il y a une utopie du plaisir dans la tôle, tu vois, quand tu es seul, à plat ventre. Donc là, il y a un début de questionnement métaphysique, ou au moins, à minima, théorique. J'ai bien théorique. Mais peut-être que tu as une explication, hein. Non.
Non, mais je sais pas. Maintenant, quand tu es en garde à vue, tu es seul dans une cellule ?
Ah, moi, j'étais seul, oui.
Attends, nous, on était une quinzaine au dépôt à Paris, dans la salle, hein, avec les bancs.
Il y a des caméras de surveillance, maintenant.
Oui, bien sûr. Ben bien sûr, je me suis masturbé face à la caméra en plus.
Ça a été enregistré. C'est sur le net ?
Je sais pas, c'est sur le site de la police.
Bon, autre enjeu de ping-pong, le salafisme architectural. C'est très présent dans ce livre, L'architecture est un sport de combat. Qu'est-ce que vous appelez le salafisme architectural ?
C'est le point culminant de la rétention des écritures, de la narration, du récit. Il ne s'agit pas pour moi d'attaquer le minimalisme des années 60, l'art minimal américain, etc. Mais on voit bien comment ça a cheminé depuis. Ça fait un peu lourd quand même, hein. C'est un peu pesant. Ça parle de la disparition des savoirs, de la disparition des métiers, la jonction d'un mur blanc avec un sol gris, c'est pas une performance quand même. Ça fait friche. Hein. Bon, moi j'ai pas pour objet de créer des friches. Tu vois, j'ai pour objet d'essayer de créer quelque chose qui se stabilise. En tous les cas, dans un imaginaire sur lequel se grèvent des métiers, des savoir-faire, des choses comme ça. On voit bien, d'ailleurs, l'architecture des années 30 jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Tu prends une façade, il faut 100, 200 mots pour décrire ce que tu vois sur une façade. Aujourd'hui, il y a 2-3 mots. Il y a 2-3 mots, c'est fini. Façade, rideau, soubassement, accrotère, c'est fini. Donc si on a perdu les mots, c'est qu'on a perdu les métiers. Si on a perdu des métiers, on a perdu des pans entiers de savoir-faire. Alors ça fait un peu triste de le dire comme ça, mais je fais un peu la gueule, là. Mais je crois qu'à la clé du minimalisme, il y a la vraie fausse, le vrai faux bénéfice en pudeur. Je crois que c'est un truc un peu comme William Blake disait, la modestie n'est que le masque de la vanité. Je crois qu'il y a derrière... Le minimalisme dans sa forme la plus contemporaine, la plus récente, les mêmes intuitions que chez les salafistes, c'est-à-dire la burqa, la rétention, la disparition et en même temps aussi la suspension du désir qui lui s'accompagne tôt ou tard. Et là encore, je cite Blake qui disait s'accompagne de pestilence. Voilà.
Dans le stadium, il y a des signes. Il y a des références au
oui,
rock.
Oui, bien sûr, il y en avait beaucoup, oui.
Il y a beaucoup de signes.
Oh, il y a beaucoup de choses dedans, oui, bien sûr. Ça va de Gordon Matta-Clark en passant par... Enfin, bon, on va pas parler du stadium toute la soirée.
Je ne crois pas que ce soit les signes qui soient déterminants. Je crois que... Comment dire ? Je crois que la forme leur fait honte. C'est-à-dire qu'il y a... Au fond, l'architecture, je ne sais pas si elle signifie grand-chose. Elle dit sa simple présence au monde. Mais par contre, il y a quelque chose dans l'architecture muette, dans l'architecture blanche, qui rejoint les gens qui arrivent à parler du secteur du bâtiment sans jamais parler de la beauté ou pas des bâtiments. C'est que la forme leur fait honte. Et en ce sens, malheureusement, je suis d'accord avec Rudy Ricciotti. Il y a quelque chose du refus de l'image. C'est pas nécessairement le signe. C'est même pas c'est pas forcément nécessairement la représentation. C'est l'image en ce qu'elle a une forme qui est aujourd'hui, d'une certaine manière, refusée par une certaine partie
par les cultureux. Par les cultureux, Pascal, il faut bien le dire. Adolf Loos. Adolf Loos écrit dans les années 30, l'ornement est un crime. Et tous les étudiants en architecture et les professeurs, dans un bêlement collectif victimiste, et Caprin, reprennent ça. Oui, l'ornement est un crime. Mais c'est un crime d'avoir dit que l'ornement est un crime. Le même qui fait l'American Bar à Vienne, un lieu superbement ornementé d'ailleurs. Mais il pousse l'avantage, il pousse l'avantage le plus morbide d'Adolphe Loos jusqu'à dire, il dit, à un moment donné, le signe, E-E-S-T, l'attribut des civilisations primitives. Il met en exergue la connexion raciste, je dis bien raciste, entre les sociétés qui fonctionnent sur le signe, et il le met en perspective universitaire. Il contamine des pans entiers d'universités comme ça. Et c'est toujours actif. C'est toujours actif. C'est pour ça que j'ai même dit dans, je crois que c'est dans ce livre ou dans HQE, j'ai dit qu'on aurait dû le buter de son vivant avec un Colt à Croznacré.
Le buter pendant Pascal sa Lubin. Mort, ça sert à rien. C'est généralement de son vivant qu'on le fait. Mais tiens juste avec Adolphe Loos, qui... Non mais parce qu'à cette époque-là, le décor qu'il condamnait travestissait les formes architecturales. C'est pas exactement la même chose de vouloir dénuder l'architecture pour en révéler les formes, et c'est ce qu'il dit, que de nier jusqu'à l'existence même d'un intérêt pour les formes architecturales. Ça fait deux ou trois fois que j'entends ça, et je trouve que tu es injuste avec Loos qui... Enfin, Loos, c'est un architecte, un des premiers architectes modernes, un type très, très remarquable, qui, par ailleurs, tu le sais, mettait des papiers peints sublimes, faisait des détails extraordinaires dans ses maisons, et avait créé des formes et même des décors d'une qualité extrême.
Ce qui n'empêche pas, par ailleurs, d'écrire que l'ornement est un crime, et donc, finalement, c'est une... que ce décor, que ce goût du signe puisse être l'attribut de la scène bourgeoise. C'est un peu pénible quand même. Attends, 50 ans après, 60 ans après, ça continue, tu vois, on va en crever, tu vois. Et puis les situationnistes s'en mêlent, tu vois, le rêve marxien tardif, c'est une espèce de grand brouhaha collectif, hein. Enfin, c'est pas l'objet de la rencontre. Je sens que la mâchoire de Pascal commence à se tendre. Je le sens.
Est-ce que ça va de pair avec la standardisation, cette histoire ?
Qui nous pèle l'âme jusqu'à l'os, c'est ça?
Oui.
Je crois pas que ce soit le reflet d'un... Enfin, là, on part dans tous les sens. Je crois pas que ce soit le reflet d'un mécanisme essentiellement économique. Je crois que la standardisation, c'est tout simplement la volonté de bien contrôler par différents réflexes. Le principe de précaution, le principe de contrôle des outils de production. Ça relève d'un débat sur l'économie, ça. Hein. C'est encore autre chose. Mais vous savez, le MUCEM, c'est la standardisation. Hein.
Parce que standardisation, par exemple, donc l'architecture est un sport de combat, on peut dire ceci. Promouvoir les supermarchés est une malédiction impardonnable. Je reste persuadé que les grandes surfaces sont des lieux avant-coureurs d'un racisme cognitif insidieux, où le noir assurera la sécurité en crâne rasé, où sera attendu habillé en rasta avec un skateboard, tandis que le blanc, costumé et cravaté, sera plutôt chétif et chauve, et la blonde, vue avec un caniche dans les bras, et le beurre avec une cagoule de rappeur. Une catégorisation des individus pensée en amont, au stade de la conception des objectifs affichés, des surfaces de vente et une gare de triage de sinistre mémoire à la source des mécanismes de discrimination les plus odieux. Le MUCEM, c'est pas tout à fait ça.
Non, mais attendez, mais sur ça, là, on peut prolonger. Aujourd'hui, le slogan HQE, quand vous voyez des plaquettes, les écoquartiers, qu'est-ce que c'est ?
Haute qualité environnementale.
Ouais, on voit les plaquettes, alors qu'est-ce que c'est ? Tu as un désalignement d'arbres un peu fragile, parce qu'il faut pas qu'ils soient trop robustes non plus. Et puis, tu as des parents HQE qui font du roller skate avec leurs enfants HQE. Et puis on fait une ronde ensemble, les petits-enfants, les parents, on fait une ronde sur la pelouse. Et c'est le meilleur des mondes, mais c'est atroce. Tu vois, c'est totalement atroce. Je suis bien sûr qu'il y a une catégorisation inévitable, ne serait-ce que sur le regard qu'on porte sur ce réel-là, par les attitudes qu'on veut bien déclencher. Et je pense que la question du HQE est la dernière livrée de ce racisme cognitif, qui renvoie à la disparition de l'anormalité.
Et qui renvoie à la disparition des Lucioles.
Et des Lucioles, oui, Pasolini, bien sûr. Il faut relire Pasolini, c'est d'actualité incroyable, non ?
La disparition des Lucioles qui est la disparition des singularités, justement. De l'idiot, quoi, d'une certaine manière. HQE, c'est le titre d'un livre un pamphlet donc, contre les écoquartiers, la norme haute qualité environnementale. Bon, qu'est-ce qui vous gêne exactement dans ces projets d'écoquartiers ?
Moi, je pense que ça va être les futures friches à rénover très vite, dans moins de 10 ans.
Et pourquoi ?
Parce qu'elles sont essentiellement bâties sur des principes de fragilité, adossés à des inexpertises les plus inconséquentes. Je dis bien des inexpertises totalement inconséquentes. Et sur des effets d'annonce doctrinaire, idéologique, dans laquelle la masse, l'épaisseur n'existent pas. Et dans laquelle, par exemple, le coefficient de travail, le coefficient main-d'œuvre, le coefficient bénéfice partagé n'apparaît jamais.
Bien proche du micro.
À la clé de cette doxa, par exemple, la notion de chantier propre. Vous savez ce que c'est un chantier propre ? C'est propre ici et sale ailleurs. Voilà. Ça veut dire ça, un chantier propre. On a le cas avec la ferraille, par exemple. Aujourd'hui, tu dis à un maître d'ouvrage, je construis de l'acier parce que ça ne fait pas de bruit, c'est propre, etc. Tout le monde est ravi. Mais moi, je voudrais juste te rappeler que lorsque Mittal, la main sur le cœur, rachète les hauts fourneaux français, quelques mois après, il désingue 5000 familles, car il met 5000 familles au chômage. Et vous savez ce qui va se passer avec les chantiers propres, avec la ferraille ? Les profilés prédécoupés, prépercés vont arriver d'Inde directement pour gérer les chutes près des fourneaux indiens, pour honorer l'ouvrier français, travailler et tourner la clé à molette dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est-à-dire que la délocalisation industrielle de la production elle-même, lourde, va s'accompagner de la disparition de plusieurs centaines de métiers périphériques. Et si je défends le béton, c'est que c'est totalement inverse. Voilà. Le béton, c'est une production territorialisée, une chaîne courte de production. Et surtout, un système totalement, j'ai envie de dire presque emphatique, de développement des métiers qui l'accompagnent. Et d'une mémoire du travail non délocalisable. Voilà.
Si je peux rajouter là-dessus.
Pascal, tu as du mal à dire, toi, hein, France, sur l'HQ.
Non, mais attends. Non, si.
C'est
une question douloureuse pour moi, parce qu'en 71, j'étais écolo. J'ai milité aux Amis de la Terre. J'ai organisé avec d'autres des manifestations à vélo, les premières manifestations à vélo dans Paris, contre l'automobile. Et ce que cette bonne idée auquel j'adhérais est devenue me désespère. Donc je voulais juste rajouter des choses sur l'urbanisation des écoquartiers. On nous demande des apports solaires tels qu'on va éloigner les bâtiments pour qu'il y ait assez de soleil. Donc on va faire un urbanisme distendu, hein, avec beaucoup de distance entre deux bâtiments. On nous demande des apports solaires, donc on va privilégier les façades sud très éclairées et les façades nord très opaques, fermées, des derrières, des culs de maison en fait. On nous demande des espaces de convivialité. Je ne sais pas ce que ça vient faire avec l'écologie d'ailleurs, mais il faut que ce soit convivial. Donc j'ai vu dans plusieurs écoquartiers et des coursives et des passerelles, des flux dénivelés et des petites unités de voisinage, des regroupements entre petites unités de voisinage pour que les voisins se congratulent les uns les autres et tondent la pelouse à tour de rôle. Non mais il y a toujours eu de la... C'est-à-dire, laissez-moi terminer, c'est-à-dire qu'on est en train de faire des quartiers qui sont exactement ceux de l'architecture moderne. Aujourd'hui, il y a un truc qui s'appelle l'ANRU, qui essaye de réhabiliter tant bien que mal ces quartiers modernes, de redensifier, de réouvrir plusieurs façades. On y supprime les coursives, on y supprime les unités de voisinage, parce que ça ne marche pas. Et en ce moment, au nom de l'écologie, on est en train de refaire les mêmes erreurs. La bonne nouvelle pour les architectes, mais la mauvaise nouvelle pour ceux qui les payent, c'est que dans 5 ans, dans 10 ans ou dans 15 ans, il va falloir réhabiliter les écoquartiers comme aujourd'hui, à grands frais, on réhabilite les cités et les quartiers construits dans les années 50 et 60. Et au nom de... On les fait comme tels, de la même façon qu'on les faisait comme tels à l'époque, au nom d'une économie, d'une urgence... Et sans se soucier jamais de la forme que ça a, de la qualité que ça a, et sans, je le répète, sans qu'il y ait de réelle expertise sur les effets que ça produit. Il faut, non mais je veux dire, aujourd'hui, les normes sur l'environnement sont destructrices de l'environnement presque autant que les normes sur l'accessibilité sont destructrices de l'accessibilité des handicapés au bâtiment. C'est-à-dire que c'est tout simple. N'importe quelle bonne idée qui remporte un succès auprès des pouvoirs publics actuels est transformée en gabegie. J'ai honte, mais j'ai trouvé que l'Europe était une bonne idée. C'est devenu un catalogue de toutes les impuissances. J'ai pensé que l'écologie était une bonne idée. C'est devenu quelque chose qui détruit l'environnement. Non. Alors je vais me taire. J'évite d'avoir de bonnes idées ou d'adhérer aux bonnes idées que les autres.
Toute l'écologie n'est peut-être pas responsable du HQE, haute qualité environnementale. Et puis, il m'a semblé, moi, que tout de même, l'architecture de tout le temps avait affaire avec un cahier des charges, des contraintes, qu'elle avait à négocier, qu'elle avait à lutter. Pourquoi là, il y aurait absolument pas... Il n'y a aucune marge de manœuvre écoquartiers
entre la contrainte, entre la convention, entre le rapport... personnel entre un maître d'ouvrage et un architecte, d'une part, et entre la façon dont on veut normaliser les choses aujourd'hui et dont on les normalise effectivement, il y a un monde. C'est la façon dont on donne les ordres aujourd'hui n'est pas celle dont on donnait les ordres avant.
Rudy Ricciotti, il n'y a rien à faire.
Non, moi, j'adore le pessimisme de Pascal Urbain parce qu'il me... J'ai envie de me tailler les veines quand je l'écoute. Mais en même temps, quand je sais qu'il le dit sur une perspective pataphysique, il faut savoir un peu décoder. Si tu écoutes Pascal Urbain, on est confronté à l'épuisement européen, il a raison. À l'exil de la beauté, il a raison. Et sa chute, c'est de dire j'évite d'avoir de bonnes idées. Là où je pourrais le rejoindre, moi je dis j'ai pas d'idées, je me répète. Donc c'est bien à la marche aujourd'hui que le questionnement esthétique peut se refonder. Alors il y a plusieurs territoires pour le refonder. Il peut y avoir le territoire économique, le territoire politique, le territoire paranoïaque. Urbain est plutôt dans un territoire paranoïde, on pourrait dire. Non mais vrai, type un peu paranoïaque. Bon, moi c'est plutôt schizo. Chacun son truc, chacun sa sexualité métaphysique, tu vois. Mais avec ça, je ne sais pas si on peut faire le débat pendant une heure, tu vois. J'ai peur qu'on reçoive des chaises avant la fin, tu vois, Pascal. Combien il reste de temps, là ?
Il nous reste encore 25 minutes.
Bon, on tient, pour l'instant,
on tient. Est-ce qu'on peut parler un peu du béton, tout de même ? Parce que c'est important, cette exposition, et aussi, tout de même, met en avant le béton, j'aimerais qu'on en parle. D'abord, comment vous l'avez rencontré, le béton ? Je crois que vous l'avez d'abord piétiné, c'est cela ?
Oui, non, vous voulez que je vous dise que je suis tombé dedans, dans une bétonnière, quand j'étais petit. Oui, j'ai failli me noyer dans une bétonnière. Oui, c'est vrai, quand mon père était chef de chantier. Non, mais enfin, il y a des limites à la romance, quand même.
Moi, j'y crois pas, ça. Je crois que vous avez marché dessus, par contre.
Oui. Ah oui, moi, j'adorais, moi, piétiner une chape de ciment fraîche, tout, c'est sexy, il y a une odeur, oh, ça parle. T'as, c'est du même niveau que Poutargue, c'est bête, Sardine et Révolution. Toi, c'est... C'est lié. C'est vrai. Si. Compassion et béton. Il y a une dimension christique. J'ai même envie de dire anarcho-chrétienne. Ou plutôt anarcho-narco-chrétienne. Voilà. Ça, la vertu du béton. Voilà. Et après, on peut décomposer et faire des sous-analyses par catégorie. Ça rentre toujours dans toutes les catégories.
Bon, il est un peu comme vous, le béton, anarcho-chrétien.
Le problème, c'est de le rendre narco-chrétien. C'est ça qui est le plus difficile. Évidemment, vous savez pourquoi, je crois que dans le pamphlet, vous l'avez lu, je l'ai bien développé. Moi, c'est la dimension politique du béton qui m'intéresse. Parce que c'est un matériau non spéculatif, absolument pas spéculatif.
Libre de droit.
Oui, libre de droit, qui n'est absolument pas spéculatif, contrairement au coton, au blé, au pétrole, au gaz, au minerai, etc. Et qui permet aussi de territorialiser tous les métiers qui l'accompagnent. Sur des chaînes courtes de production. Après, on peut toujours combattre, dire oui, l'empreinte environnementale du béton. Eh bien oui, si le béton a une empreinte environnementale de 1, l'acier c'est 80, l'aluminium c'est 220, l'inox un horizon inconnu. Vous voyez, avant le stade Jean-Bouin à Paris, On a fait des études d'empreinte environnementale dans toutes les catégories. Consommation d'eau, GW, enfin, bon, toutes les énergies. Comparé à une couverture en aluminium ou en acier ou en verre, dans toutes les catégories, dans toutes les grilles de lecture, le béton a une meilleure empreinte environnementale. Et au bilan global, c'est dans un rapport de 1 à 4. Mais à qui vous voulez l'expliquer ça? Allez l'expliquer aux verts qui sont bornés. Bornés, qui ne veulent pas entendre. Allez expliquer que fermer des carrières, c'est désinguer des emplois en France.
Mais c'est peut-être aussi parce qu'avec le béton, il y a eu beaucoup de ratés quand même avec le béton.
Mais bien sûr. Bien sûr, les années 60, le mouvement moderne, c'est chien, c'est salaud. Hein ? Tes copains. Les modernes, putain, qui n'en finissent pas de mourir, tu vois.
Le micro, Pascal. Hein.
À mon âge, non mais attends, j'ai toujours défendu l'architecture ancienne. Et tu voudrais qu'à 62 ans, je m'improvise dictateur de la modernité ?
L'architecture ancienne, c'est joli le mot, hein. C'est pas mal, car un professeur avec une architecture qui défend l'architecture ancienne. C'est joliment dit, je trouve. Donc tu deviens progressiste, c'est-à-dire réactionnaire, et tu me rejoins sur ce fond, voilà. Parce que la seule manière d'être progressiste, c'est d'être réactionnaire. Il faut le faire, ce cheminement de pensée. Parce que, vous savez, ici on est dans un lieu de... Voilà, les friches c'est quoi? C'est le rendez-vous de la jeunesse désabusée, on est bien d'accord. Non mais c'est vrai. Non mais tu viens à la friche, tu roules la cigarette, tu bois une bière, tu espères vers 2h du matin pouvoir tirer un coup si tu es encore capable, enfin tu vois le genre. Attends. La culture aujourd'hui, tu vois, c'est-à-dire l'architecture, l'art contemporain, le graphisme, le design, la pub, tous ces nouveaux métiers, par un incroyable flagrant délit de l'histoire, sont pris en flag comme étant les vecteurs les plus virulents de l'esthétique de la globalisation. C'est-à-dire que tous ensemble, comme au stade en se tournant par l'épaule, tu sais comment ça, tous ensemble, on désingue plus la réalité que les paradis fiscaux, les Chinois, et même les attaques de sauterelles. Je crois. Ouais. Ah, il y a des pessimistes, tu vois, il y a la désillusion, il y en a qui vont plus loin. Hein, tu vois.
Oui, d'ailleurs, c'est le titre, la désillusion d'un de vos livres. Parce que, qu'est-ce que vous vouliez dire avec la désillusion, d'ailleurs? Désillusion, c'était cette désillusion-là aussi? Non?
Non, je parlais de cette expérience très particulière de la rencontre d'une architecture dont on a déjà entendu parler. C'est un truc un peu plus technique que ça. C'est on va quelque part et on s'aperçoit que c'est exactement comme on savait que c'était.
Eh oui.
Vous allez à New York, c'est une désillusion joyeuse, mais d'une certaine manière, vous découvrez New York pour la première fois, et New York est très exactement comme vous saviez que la ville était. Et donc, c'est pas triste, la désillusion. Quand vous allez voir un prestidigitateur et qu'à un moment donné, vous devinez le truc, vous jubilez. Non, c'était pas un livre désespéré. Je ne le suis pas. C'est très joli, la désillusion.
Vous n'êtes pas donc...
C'est positif.
Vous n'êtes pas désespéré ni cynique, comme le laisserait entendre parfois Rudy Ricciotti.
Non, mais le cynisme, c'est inacceptable. Hein. Mais il est borderline, quand même, Urbain. Hein. Il est au bord du cynisme. C'est pour ça qu'il survit, j'ai envie de dire, dans sa sexualité pataphysique. Parce qu'il est au bord, tu sais, au bord du précipice, mais il n'est jamais rentré dedans. Il n'a jamais tiré les conséquences du cynisme. Voilà. Et je pense que ce n'est pas un projet esthétique, encore moins un projet politique, le cynisme. C'est un truc de dandy, de gosse de riche, dans des bonnes situations, tu vois, ou dans des vrais lieux, des vrais quartiers. Ce n'est pas un propos acceptable, le cynisme. Il faut combattre avec beaucoup d'énergie, le cynisme. Enfin, moi, en tout cas, je le combats. Hein.
Alors, par exemple d'une lutte acharnée, l'exemple du Louvre. J'aimerais qu'on parle du Louvre, de ce département le département de la culture de l'islam.
Oui, c'est la nouvelle aile muséale du Louvre qui s'appelle le 5e département créé, qui est le département des arts de l'islam, comme territoire géographique. Il faut bien le comprendre. Et pas comme territoire religieux. Voilà. Et je sais, vous voulez que je vous parle de cet escalier. Il y a un très bel escalier en béton moulé, une pièce exceptionnelle. Je vois mon confrère Battesti qui hoche la tête. On peut voir une photo de cet escalier qui fait 17 mètres, moulé, une seule pièce. Et à l'époque, on me dit, mais oh là là, il est trop long à faire, votre escalier. Foutez-moi ça, abandonnez-le, ne le réalisez pas et mettez-moi un escalier préfabriqué. C'est quand même les cultureux du Louvre qui te demandent ça, tu vois. Évidemment, je n'ai pas accepté. Je dis non, mais... Faites chier, quoi. Hors de question d'obéir. Alors évidemment, je me suis mis tout le monde à dos parce que je souhaitais qu'il y ait un travail qui célèbre, rende honneur à la main-d'œuvre. Et là, on voit les gens qui font cet escalier, c'est 6 mois de travail entre le coffrage, le ferraillage, le coulage, le démoulage. Moi, j'ai travaillé un quart d'heure pour dessiner cet escalier, pas plus. C'est tout. Et on voit bien comment on n'a pas le même regard sur la culture du travail. Et ce qui me fascine aujourd'hui comme architecte, c'est de consacrer, de renouveler sans cesse la culture du travail. Alors de ce coup, ça me fait penser à quelque chose. Quand j'étais étudiant en architecture, j'avais des profs, 68, qui avaient tous diplômés en 68. C'était tous des gauchistes, des beaux quartiers, etc. Et moi, c'était dans les années 70, j'étais étudiant en architecture, et puis il me disait, Ricciotti, il faut faire des projets simples. Pourquoi, monsieur, il faut faire des projets simples? Parce qu'il faut réduire les coûts de main-d'œuvre. Mais c'était tous des gauchistes, il n'y a pas de problème, c'est-à-dire des cyniques, quoi. Il faut réduire les coûts de main-d'œuvre. Mais tu t'en rends compte? Le discours criminel, réduire les discours de... Mais moi, il n'y a qu'un truc qui m'intéresse aujourd'hui, à 62 ans, tu as dit ton âge, je dis le mien aussi, c'est de fabriquer des bâtiments avec un très haut besoin et une très grande complexité en matière de main-d'œuvre. Il n'y a plus que ça qui m'intéresse dans mon métier, t'entends ? Il n'y a plus que ça qui me motive. Fabriquer des bâtiments complexes à réaliser avec une main-d'œuvre territorialisée. C'est mon rêve politique et mon rêve esthétique. C'est pas cher payé quand même. C'est pas beaucoup demandé pour se regarder encore dans un miroir lorsque tu fais ce métier. Bon, après, c'est pas forcément compris parce que quand je vois l'exposition en bas, le livre d'or là, putain, j'ai des insultes toutes les pages. Ah ouais, attends. Anonyme, bien sûr. Signé par des garçons anonymes.
Voilà. Mais dans ce rêve-là, c'est aussi accepter, comme au pavillon noir pour le centre chorégraphique d'Aix-en-Provence, accepter aussi eh bien, cette trace de l'artisanat, cette trace de cette performance, qu'à un moment donné, ça puisse rater.
Oui, je sais que ça vous a marqué, mais parce que j'en parle dans le pamphlet. Le 24 décembre au soir, on coule du béton, le premier volume de béton au rez-de-chaussée du pavillon noir. Et le chef de chantier, M. Olivero, qui est décédé depuis, je lui rends hommage d'ailleurs, entend crac. Et puis, c'est pas ce qui se passe, il finit de couler son béton à 20h, le 24 décembre. Ça fait un moment que tout le monde est déjà à table, le 24 décembre, tu vois. Et puis le 3 janvier, on décoffre et on voit le béton qui est parti en couille, en biberine, comme on dit à Marseille. Et puis là-bas, il voulait casser tout ça. Je dis, vous touchez pas, c'est la marque. Il y a une dimension quasi christique du travail. Vous ne touchez pas. Je vous interdis de toucher ça. Et donc, c'est vrai que dans le monde de l'entreprise, dans le monde de la maîtrise d'ouvrage, ce sont des choses qui sont difficiles à comprendre. Mais vous savez, ça fait 34 ans que je fais ce métier en libéral. Je n'ai jamais rien fait. Détruire, et là est mon honneur. J'accepte. J'avale la couleuvre. C'est comme ça. C'est comme ça que je vois le combat. Voilà. Et j'accepte.
C'est devenu la signature du bâtiment aussi.
Je ne sais pas si c'est la signature, mais il y a peu de gens qui ont vu cette déformation.
J'aimerais qu'on parle de corrida. Je disais en introduction que vous aviez cette passion commune. Et je sais, enfin, Pascal Urbain me disait qu'à Arles, pour la corrida goyesque, dont il faudrait dire ce que c'est exactement, vous avez réalisé une installation, Ricciotti, en 2013, à la corrida d'Arles, dans les arènes.
Oui, oui, bien sûr. Bon, c'est une tradition, la corrida goyesque, qui renvoie à la présence du décor. Et il y a une tradition depuis 10 ans de demander à un créatif, un créateur, appelez-le comme vous voulez, de mettre en scène les arènes elles-mêmes. Ça ne touche pas au combat des taureaux, etc. Ça n'a rien à voir. Et bon, une fois c'était Christian Lacroix, une fois Claude Viala, etc. Donc, moi, ce que j'ai voulu faire, simplement, c'est de refermer le territoire avec des grandes tentures en velours rouge. Et de faire effeuiller et installer 220 000 pétales de roses. Ils l'ont fait dans la nuit, 220 000 pétales de roses. Alors, j'avais exigé que les roses soient produites régionalement, que ce ne soient pas des roses de Hollande, quand même. Voilà. Et bon, et évidemment, ça fait ce décor que Pascal semble avoir. Qui a beaucoup ému, mais Pascal, puisque tu étais là. Et la chance, c'est qu'on avait quand même une voûte J'avais une autre façade qui était ce ciel orageux, gris, sombre, avec un chœur, une chorale magnifique. Et ça a été effectivement un moment d'allégria, comme on dit, parce qu'il y avait une densité. Une densité, il y avait une fragilité complémentaire.
Aimer la corrida, c'est pas plus l'attaque au HQE,
c'est pas anodin.
C'est pas anodin, non ?
C'est peut-être pas gentil, d'ailleurs, dans une radio, hein, de dénoncer des gens en disant qu'ils aiment la corrida. C'est pas anodin, en tout cas. C'est peut-être... On peut perdre des amis, on peut ne plus être invité à des repas quand on aime la corrida. C'est peut-être presque aussi grave que si vous prétendiez qu'on était fumeur, quoi. Enfin, ça fait partie des vices les plus honnis aujourd'hui. Oui, je me demande si c'est très bien ce que vous faites là, de nous stigmatiser. Voilà, vous savez ce que vous faites, vous nous stigmatisez.
Et oui, c'est vrai que la corrida n'a pas bonne presse tout de même aujourd'hui. C'est abattre un taureau sans défense.
Moi, je vous renvoie à Durand, un chroniqueur taurin magnifique, avec Curnier aussi, dans Art Press, sort un très beau numéro sur la tauromachie. Moi, je ne veux pas rentrer dans un débat, parce que c'est un débat impossible, totalement impossible et inexplicable. Donc, vous ne m'entraînerez pas sur cette discussion. Voilà.
Pascal ?
J'ai une minute ?
Oui.
Non. Franchement, je crois que c'est un rapport avec l'architecture par la suprématie de la présence par rapport au signe. C'est-à-dire que vous pouvez dire tout ce que vous voulez sur la corrida, sur ses signes, sur ses symboles. Enfin, ça joue avec énormément de signes et des signes qui nous touchent au plus près, l'animalité de l'homme, la grandeur de l'animal quand il se bat. Il y a beaucoup de choses qui sont des signes. Et pourtant, à la fin, il y a la pure présence de la mort d'un animal au-delà de toute signification. C'est-à-dire que je dis pas que c'est rien, hein. C'est très grave de tuer une bête. C'est une bête qui se bat, c'est une bête qui est énorme, c'est une bête qui nous tuerait, qui tuerait le torero, excusez-moi, si le torero ne la tuait pas. Mais au fond, c'est au-delà de toutes ces significations-là. C'est la mort d'une bête qui est pas célébrée, qui est pas signifiée. Elle est là. Il est vraiment mort. C'est pas du théâtre. C'est pas de la fantaisie. C'est une présence du fait. Et je crois qu'il y a quelque chose dans l'architecture qui est la seule chose que dit fondamentalement l'architecture, c'est qu'elle est là, qu'on y vit bien, qu'on a à négocier avec elle, qu'elle est lourde. Qu'elle est grosse, qu'elle est puissante, qu'elle est présente et qu'elle était probablement là avant nous et qu'elle sera là après nous. Donc je crois que... Enfin, je rentre dans le débat. Oui, la corrida montre des faits qui sont au-delà du bien et du mal. Voilà, c'est... Ce pourquoi le débat moral sur la corrida rate l'objet de la corrida elle-même. En tout cas, c'est pas pour des raisons morales qu'on aime la corrida, bien évidemment. Mais ça n'est pas pour des raisons morales que vous pouvez la condamner.
Je vous ai senti agacé à un moment donné, Rudy Ricciotti.
Non, pas du tout, non. Je t'en ai pensé que c'est le seul spectacle vivant où la mort est mise en scène. C'est ce qui en fait un spectacle impossible. Voilà. Mais je vous dis, je n'ai pas envie de rentrer dans ce débat. Mais je vous renvoie, je vous dis, à deux très beaux articles qui vont sortir dans la presse, parce que je les ai déjà lus, de Durand et Curnier, le philosophe.
Justement, philosophe, poète, je crois que Curnier est aussi un ami de Julien Blaine. Vous pouvez nous parler de ce rapport que vous avez avec la poésie, ce compagnonnage, par exemple, avec Blaine ?
Oui, parce que je pense que les poètes sont les derniers artistes qui n'ont plus rien à perdre. Ils sont dos au mur. Les poètes n'ont rien à perdre. Rien. Et je crois qu'ils ont un courage frontal qui est l'équivalent de celui d'un peintre qui peint au rouleau, vous voyez, avec de l'épaisseur, et qui sent le poids de la matière au bout du bras. J'aime leur courage, tout au moins. Mais la poésie dont on parle, en tout cas celle que j'aime, c'est pas Verlaine, c'est la poésie contemporaine, expérimentale, en chair et en os, comme dit Julien Blaine, voilà.
Celle de Blaine ou de Anne-James Chaton, je crois, aussi.
Comment ?
Anne-James Chaton, je crois,
oh, oui,
aussi.
Bien sûr, Chaton, oui, bien sûr. Magnifique. On a une scène française de poésie concrète, vivante, debout, magnifique. Je pense que c'est une des meilleures scènes au monde, hein. D'ailleurs. Les poètes français sont très, très brillants. Moi, je suis un grand admirateur de la scène poétique française. Ouais.
Et vous collectionnez aussi des œuvres d'art ?
Non, plus.
Plus ?
Non, pas vraiment, non.
C'est fini ?
Non, mais je me disperse pas, voilà. Voilà, je reste fidèle à quelques artistes, et puis c'est bon. Mais j'écris, là, j'écris un texte, là, encore, pour un artiste. J'écris de temps en temps des éditos, des trucs, ouais, pour des livres.
Est-ce que c'est parce que, selon vous, il n'y a plus rien aujourd'hui du côté de l'art contemporain ? Plus rien de très intéressant ?
Si je dis ça à la radio, à Marseille, oui. Ça va être dur, hein, je vais payer. Mais enfin, les artistes eux-mêmes savent que l'art contemporain est en crise. C'est tout. Vous savez, les champs disciplinaires se suivent. Nous, on a pris nos roustes, les architectes, dans les années, on pourrait dire, 2000. On a pris une branlée mémorable, 90-2000. Mais vous savez, les architectes sont... En matière de combat, eux, ils arrivent avec des chars lourds, et les artistes sont des fantassins à tête nue. Ils sautent sur les bombes. Ils ont beaucoup moins de moyens d'autodéfense que nous. Et donc, nous, pour l'instant, on a duré, mais les prochains à prendre la branlée, c'est les artistes. Je pense qu'ils vont prendre une sacrée raclée. On le sent, hein, je le développe dans l'architecture de sport de combat. Je pense qu'ils sont confrontés à un drame à venir par l'effondrement de certains mots qui sont devenus spécifiquement niais, qui est le mot minimal, conceptuel, qui est un ode à la niaiserie quand même. Et il y en a beaucoup qui vont sauter.
C'est voilà, quoi, c'est qu'ils ne parlent plus à personne, ils ne parlent qu'à eux-mêmes ?
Bien sûr qu'il y a de l'autisme, mais il y a aussi de la lâcheté. Il y a aussi un déficit de frontalité. Je vous assure, je préfère un mauvais peintre, j'ai beaucoup plus d'admiration et d'affection et d'empathie pour un mauvais peintre, pour un mauvais sculpteur, pour un mauvais dessinateur, que pour un artiste conceptuel et minimal qui se met à la distance du réel pour nous laisser dire simplement que sa seule pensée suffit. Non, ta seule pensée, elle ne sert à rien, ta pensée. Il faut qu'elle passe à l'acte, c'est tout. Et c'est là que ça va se jouer maintenant. Voilà. Et je crois que les plus courageux, les plus imprudents survivront. Vous savez, un économiste anglais qui a dit « Tomorrow only paranoïaques will survive ». Ce sera pareil pour les artistes. Seuls les paranoïaques survivront.
Et passer à l'acte, ça pourrait être aussi être activiste. Est-ce que vous pourriez être activiste, Rudy Ricchetti ? Est-ce qu'on peut dire que finalement vous êtes un architecte activiste ?
Avec tout ce que je construis, oui. C'est probable. Oui. On ne peut pas dire le contraire, oui, quand même. Oui.
Un dernier mot avant de nous quitter, puisque nous allons écouter le rock. Le rock,
c'est magnifique, c'est d'enfer. Voilà une forme d'expression culturelle immortelle. Alors moi, je défends le rock dans toute sa dimension politique, parce que c'est très positif, le rock. Ça n'envoie que des messages positifs, il faut bien analyser. Et puis, il y a une perspective historique qui ne cesse jamais, qui se renouvelle. Tout à l'heure, j'écoutais ce groupe-là qui... préparé, là, j'entendais les riffs du guitariste. Waouh !
Kenz Richards.
Mais non, mais
Kenz Richards overdose.
Ben oui, bien sûr. Attends, dès qu'on entend du rock, toutes les femmes se mettent à danser. Dès qu'on entend de la techno, tout le monde fait la gueule. Hein ? Les gens font la gueule. C'est incroyable quand même.
Bien, si vous voulez, on va écouter, on va se quitter avec retour de ce morceau des Rolling Stones, Sympathy for the Devil. On peut l'écouter tout de suite. Merci à vous, Rudy Ricchetti. Merci beaucoup d'avoir accepté cette conversation. Merci, Pascal Merci. Urbain. Merci à vous d'avoir été présent. Et mettons ce son des Rolling Stones beaucoup plus fort. Pleased to meet you. Hope you guessed my name.
friche dans le flux. La friche dans le flux.
C'est ça.
Donc, nocturne friche, ça s'appelle la friche dans le flux.
Soirée spéciale en direct sur Radio Grenouille. Entre live et entretien avec les artistes, la nocturne friche sur Radio Grenouille.
Avec Kate Richards
Overdose.
Et Elvis.
Date with Velvet.
Et Rudy Ricciotti.
Rudy Ricciotti et Pascal Urbain.
C'est sur le 88.8, nocturne friche.
Friche dans le flux.
Chronique, émission spéciale, sélection musicale. Radiogrenouille.com.